Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
Rêveurs audacieux.
Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif.
Conspirateur positif.
Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
Et si demain n'était pas foutu ?
Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Sophie Novel, journaliste, réalisatrice spécialisée dans l'économie collaborative, l'écologie et l'innovation sociale. Auteur entre autres de « Vive la co-révolution pour une société collaborative » avec Stéphane Rio, « La vie chère, mode d'emploi, consommation, partage et mode de vie collaboratif » et plus récemment « Les médias, le monde et nous », sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Mathieu.
Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde et un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Au XXe siècle, si c'était dans le journal ou qu'on l'avait vu à la télé, c'est que c'était vrai. Il est peu dire que la méfiance a remplacé la référence. On ne prend plus pour argent comptant ce qui est dit dans les médias. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en la journaliste que tu es. J'ai confiance en toi parce que tu t'intéresses à nos problématiques depuis bien longtemps, et que malgré tous les chiffres, toutes les courbes, toutes les tendances qui assombrissent, tu gardes toujours cette petite flamme. J'ai confiance en toi parce que, malgré les difficultés, les journalistes sont menacés ou sont traités de menteurs. Malgré le désamour, le journalisme est une des professions auxquelles on croit le moins, juste en dessous des politiques et juste au-dessus des banquiers. Eh bien toi, tu continues à le voir et plus encore à le vivre comme un des plus beaux métiers du monde. J'ai confiance en toi parce que plus que de mettre ta plume dans la plaie, tu as décidé de mettre ta plume dans l'après. Alors la première question que j'aime à poser à celles et ceux qui me font le plaisir de venir discuter ici, c'est comment tu ressens l'époque, Anne-Sophie ?
Je suis partagée. Je la ressens de temps en temps de manière très compliquée. On va dire, je sens que c'est compliqué, qu'on a plein de défis devant nous et ça a tendance parfois à me plomber, comme on pourrait dire. Et parfois je me dis, oh là là, on est dans une période riche, où tous les possibles sont ouverts. On a tout à faire encore, mais il faut le faire maintenant. Et dans mon quotidien, je navigue entre ces deux ressentis. Donc des jours où je suis un peu découragée à me dire, de toute façon, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Et d'autres où je me dis, mais en fait, si, il faut s'en emparer. Et il y a encore tout à faire, il faut encore y croire, ce n'est pas le moment de s'arrêter. La flamme dont tu parlais, voilà, il faut l'entretenir, sinon on se refroidit, ça ne va plus.
Non, ça me rappelle cette histoire que se racontaient les Amérindiens des deux loups, et finalement tu nourris le loup que tu souhaites. Comment fais-tu pour nourrir justement le loup qui croit encore ?
J'apprends de mes précédentes phases de déprime. Je crois que d'une déprime à l'autre, on apprend à se connaître, à travailler sur soi, donc c'est un travail forcément assez intime. De comprendre pourquoi est-ce qu'on est affecté par certaines informations, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est déçu, pourquoi est-ce que parfois on peut passer d'un état de colère à un état de tristesse, un état de relâchement où on n'a plus forcément envie d'agir. Et malgré tout, j'ai toujours de belles idées, de belles rencontres qui me donnent envie de continuer. Donc pour l'instant, je tiens là-dessus parce que je crois aussi que j'ai fait le choix de vivre de ma passion, de mon envie d'être journaliste pour parler des questions d'écologie. Et que du coup, c'est ça qui me guide et ça reste. Et je trouve que là, on vit une époque en plus que j'ai attendue pendant tellement longtemps. Quand j'ai commencé à être journaliste, c'était vraiment pour que ces sujets entrent un peu plus dans les unes. Et aujourd'hui, on a une génération entière qui s'empare de ces questions et qui squeeze même les médias. Et ça, c'était attendu. Et ça me rend vraiment heureuse de voir qu'on a ce mouvement-là aujourd'hui. Alors, ça pose tout un tas de questions sur la façon dont on mène ces combats. Mais je me dis, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher.
Donc, tu parles des youtubeuses et des youtubeurs, notamment ?
Pas que. Je pense qu'il y a toute une génération de jeunes qui agissent, en fait. Pas forcément ceux qu'on entend le plus, les influenceurs, forcément, qui sont très visibles. Mais je pense des personnes qui ont compris. Et je parle pas que des jeunes. Je pense qu'il y a toute une génération de personnes qui ont récemment pris conscience de la mesure des enjeux, qui sont sur ce petit chemin, parfois un peu sinueux, compliqué, fait de cette courbe de deuil dont parlent beaucoup les collapsologistes, et qui aujourd'hui ont envie de changer les choses profondément. Alors, on n'est pas légion encore, mais ça commence, les rangs commencent à grossir, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était un doux espoir qu'on essayait de dessiner. Et dans les projets que j'ai pu mener, notamment au moment de la COP21 qui avait eu lieu à Paris en 2015, on avait créé un QG dans un hôtel rue de Dunkerque à côté de la gare du Nord pour être une base de repli pour les négociateurs de la COP21 qui était au Bourget. Mais c'était un peu l'intention de dire on va créer un lieu, on va pouvoir venir échanger sur les questions de climat, de biodiversité, de changement de monde, mais le rendre plus lisible et sexy d'une certaine manière pour le grand public, pour donner envie, pour pas être juste dans un point levé mais dans une main ouverte au futur et au possible. Et aujourd'hui, je me dis, 5 ans après, j'ai l'impression que ça a un peu changé, avec des figures qui apparaissent, mais qui derrière elles emmènent des mouvements. Alors, on n'est pas au bout de nos peines. On a vu, là, on enregistre aujourd'hui, mais hier, il y avait la notation de la Convention citoyenne pour le climat suite à la façon dont le gouvernement a accueilli leurs mesures. Ça reste encore très négatif, on va dire, dans le jugement qu'on peut porter sur les effets concrets de tout ça. Mais c'est justement parce que ça reste encore trop négatif qu'il ne faut pas lâcher et continuer à mener ces batailles et que chacun, à sa place, agisse comme il le peut.
Donc des nouvelles générations de productrices et de producteurs de contenu, bien conscientes de la façon dont notre consommation médiatique évolue, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la consommation médiatique. Mmh. Et ça évolue vite, ça évolue fort et ça évolue profondément.
On parle de consommation, mais si on parle de consommation, c'est qu'il y a aussi une production médiatique. Et en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase d'accélération dans la production de contenu médiatique. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, comme le dit si bien Yves Citon, dans une phase d'intensification. Donc avec l'arrivée du web dans les années 2000, ça a démultiplié les possibilités en termes de diffusion de l'information. On n'est plus dans l'information du XXe siècle avec des canaux assez figés. Mais au contraire, aujourd'hui, chaque réseau social peut devenir une plateforme sur laquelle on produit de l'information et sur laquelle on consomme forcément de l'information. Et donc, on a aujourd'hui des bouches médiatiques qui se créent tous les jours. Mais c'est à foison, c'est-à-dire qu'on va faire... à l'époque, moi, je suis arrivée, j'étais blogueuse avant de devenir journaliste. Aujourd'hui, on peut faire du podcast, on peut être youtubeur, on peut être sur Twitch, comme le fait Samuel Etienne de manière très intéressante. Ce matin, j'ai découvert Clubhouse, là, le nouveau réseau social à la mode. Chaque jour peut être un univers de médias qui s'ouvre pour faire de l'information. La question, c'est jusqu'à quand allons-nous démultiplier ces bouches médiatiques ? Est-ce que tout le monde est prêt à consommer l'information de cette manière-là ? Est-ce que ça ne va pas trop vite pour nous ? Est-ce que l'on est fait pour accueillir cette intensification ? Et quand on voit le fléau que représentent aujourd'hui les infox, les fake news, le complotisme, j'ai une véritable inquiétude parce que j'ai l'impression que ça foisonne de toutes parts, alors avec beaucoup de bonnes choses que l'on peut en retirer, mais il y a aussi des effets un peu plus négatifs, ce qui fait qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui dans ceux qui au contraire restent sur des réseaux sociaux pendant très longtemps et qui souffrent de ce que j'ai appelé l'infobésité, d'autres qui au contraire ne s'y retrouvant plus vont tout couper, et c'est là que je parlais de médianorexie. Mais il y a tous ceux qui essayent de consommer tant bien que mal, de s'informer en allant sur un réseau social, sur un média, etc., qui picorent à droite à gauche, qui essayent de se nourrir un peu correctement, mais qui bien souvent en ressortent avec une énorme crise de foi. Et je pense qu'on a là un vrai problème de société, parce que les espaces de débat où on peut controverser, et je sais que ça t'est cher, de manière apaisée, en prenant de la hauteur, intelligente, ben pour moi, parfois, j'ai l'impression que chacun va prendre la parole derrière son écran, son micro, exprimer sa colère, se faire entendre, c'est à qui criera le plus fort. Et le débat se construit de cette manière-là aujourd'hui. Et parfois, c'est un peu cet effet de cours de récré qui m'inquiète et je ne sais pas où on va. Des fois, je me dis, ça serait bien de... Je ne sais pas s'il faut créer de nouveaux médias ou si on crée de nouveaux médias, il faut vraiment qu'ils aient une valeur ajoutée et qu'ils se différencient vraiment du reste pour apporter quelque chose qui fasse du bien à la société, sachant que on est aussi des humains avec nos propres biais cognitifs et que aujourd'hui quand on va lire ou écouter quelque chose ou on va le faire dans un premier temps pour renforcer ses croyances. Et comme on a un menu à la carte, c'est un peu comme au restaurant chinois, hein, ça c'est Eric Fotorino qui m'explique bien. Vous avez une carte qui est énorme et vous pouvez choisir une tonne de plats différents. On ne va plus regarder le menu qui était proposé à 10,50 € entrée plat dessert. Aujourd'hui, on peut aller picorer et qu'est-ce qu'on va manger au final et comment est-ce qu'on va peut-être parler de la même chose alors qu'on ne peut plus s'entendre en fait, dans cette cacophonie. C'est des questions, je n'ai pas de réponse. Je me garderai bien d'en avoir. Je ne veux surtout pas faire la morale. J'observe juste ça, pour le coup avec un petit soupçon d'inquiétude, mais avec la conviction qu'on peut quand même essayer de faire des choses encore pour s'y retrouver et que dans cette cacophonie, il y a des choses qui vont ressortir et qui seront bien aussi.
Alors dans le podcast précédent, au tien, celui avec Frédéric Lopez, qui parlait du même sujet, des médias, sujet ô combien important dans cette époque, et puis lui se posait la question à propos de la sinistrose, est-ce que les médias sont témoins ou acteurs ? Et il a posé des choses qui, moi, ont été révélantes, comme ton documentaire, Les médias, Le Monde et moi, ont été révélants, c'est que l'information, c'est une industrie. Il y a une industrie de l'information. Tu parlais de consommation, tu parlais de production, et donc les analogies avec l'alimentaire, avec l'industrie pharmaceutique, avec l'industrie plastique, avec l'industrie, elle est étonnante. Et récemment, en février 2021, il y a La Fabrique de l'ignorance qui est sortie, autre documentaire révélant, qui nous montre que sciemment, ces industries qui finalement ne veulent pas bouger de siècle organisent à travers l'info un certain nombre d'ignorances stratégiques, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'ignorance. Et donc, le tout mêlé comme un peu les synchronicités, moi j'aimerais rappeler que l'information est une industrie, c'est une économie, et qu'ils doivent donc avoir un certain nombre de clients. Et que les temps ayant changé, les temps s'étant accélérés, ils doivent suivre, malgré eux, un petit peu cette aliénation du monde. Et donc, toi, tu fais une analogie extrêmement intéressante entre le monde alimentaire, qui a pris conscience de son aliénation il y a 30 ans de ça, et le monde de l'information.
Oui, je ne suis pas la seule à la faire, mais quand je réfléchissais que j'étais dans l'écriture de la voix off du documentaire, que j'ai écrit avant le bouquin, je me souviens être assise un soir sur mon canapé à me dire « Bon sang, comment est-ce que je vais expliquer tout ce bazar dans lequel on est à un public de manière simple ?» Parce qu'en plus, l'information, comme les gens sont plutôt défiants, en général, c'est pour les intéresser au sujet, il faut essayer d'en parler de manière alléchante. Et j'avais travaillé sur le mouvement locavore 10 ans auparavant. Et je me suis dit « En fait, cette comparaison me parle bien ». Et en effet, c'est une industrie, on consomme de l'information, on en produit, mais la défiance, c'est comme celle qu'on a pu connaître après certaines crises sanitaires, avec la vache folle ou autre dans notre assiette. On avait des choses qui arrivent dans... Voilà, on ne sait plus ce qui sépare la fourche de la fourchette. Il y a de la malbouffe, des gens qui sont obèses d'un côté, d'autres qui souffrent, qui ne peuvent pas manger à leur faim. Et finalement, sur l'information, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer cette confiance, rapprocher consommateurs et producteurs d'informations? C'était un peu tout l'enjeu. Et je pense que ça fonctionne, en fait. Il y a plein de gens qui ont vu le film et qui m'ont dit « Mais en fait, j'ai compris plein de choses. » En tout cas, je me suis posé des questions que je ne me posais pas auparavant. Et tout l'enjeu de ce que tu expliquais auparavant, et la famille de l'ignorance est issue aussi d'un formidable bouquin de Stéphane Foucard, c'est la question de l'attention. Aujourd'hui, notre attention, tout le monde essaye de la capturer. C'est aussi très lié aux plateformes, forcément, qui sont derrière les réseaux sociaux. Mais cette capture de l'attention, c'est voilà, de la publicité, des notifications, une façon de, voilà, de nous attirer pour nous faire regarder des contenus derrière lesquels on va mettre de la publicité. Et donc tous les contenus gratuits qui derrière sont sponsorisés par ceci ou cela. Et ça, il faut en avoir conscience en fait. Les gens ne le savent pas ou s'en rendent compte maintenant, découvrent qu'il y a des algorithmes et qu'en fait on est à la merci en fait de nos propres biais cognitifs, et ceux qui sont derrière aux manettes de ces industries le savent très bien. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, qui donc a suivi le documentaire, j'ai vraiment à cœur de réconcilier. C'est-à-dire que on peut pas pointer du doigt les journalistes en disant qu'ils font mal leur travail sans être au courant de leur réalité. C'est pour ça que j'accueille le ressenti du public qui dit « on en a marre, je reviens pas trop sur les idées reçues qu'on a beaucoup entendues, notamment pendant les Gilets jaunes ». Et pour moi, c'était génial que les Gilets jaunes s'expriment et ça a été un vrai coup de massue pour la profession. Mais ça sert à rien de déconstruire une idée reçue. J'ai essayé de faire un pas de côté et de dire, voilà, votre ressenti, il est réel et il est fondé, et voilà pourquoi. Mais les journalistes, de leur côté, et on peut pas les mettre dans le même sac comme vous le faites. On peut pas pointer du doigt certaines télés ou certaines émissions et continuer à les regarder et croire que toute la profession est à cette image. Et donc, je passe du temps à expliquer comment les conditions de travail des journalistes ont subi les mêmes difficultés que subissent aujourd'hui les enseignants ou le professionnel de santé. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Si cette industrie-là a créé une détresse dans la profession journalistique, pour essayer d'améliorer les choses. Et c'était tout l'enjeu de mon travail que d'essayer de montrer qu'il y a plein de chemins de fer, F-A-I-R-E, cette fois-ci, à développer pour améliorer la relation médiatique.
Alors, ce que disait Fred aussi dans le podcast précédent sur les médias, c'est que lui pensait profondément que les journalistes étaient sincères, même quand ils nous conduisaient à voir le monde qu'à travers un biais cognitif, ce biais qui nous fait montrer la semelle de la chaussure plutôt que de nous parler de la complexité de la personne. L'autre chose, il a vraiment bien dit, c'est que l'économie industrielle de l'information, elle nous conduit aussi à maltraiter finalement cette information, puisque l'accélération technologique fait qu'on doit capter cette économie de l'attention, ce temps de cerveau disponible, ce qui fait que les rédactions, elles ont moins de temps, et en plus, elles ont moins d'argent, parce que la publicité n'est plus le modèle qui va bien dans le 21e siècle, un peu différent. Alors Anso, avec tout ça, comment on fait pour se nourrir différemment d'informations?
Déjà, alors, les journalistes ont plein de choses à faire. Ça, je le détaille amplement, que ce soit renouer avec les fondamentaux du métier, c'est-à-dire à la fois retrouver du temps pour faire des reportages de terrain, pour faire de bonnes investigations, pour apprendre aussi du coup des nouveaux outils qui se présentent à nous, que ce soit sur la data. Je sais que tu as reçu Karen Bastien, mais le data journalisme, quelque chose qui s'est bien développé, pour retrouver les faits, c'est-à-dire voilà, le fact-checking, je ne sais pas si c'est devenu un outil journalistique, ça ne doit pas devenir notre outil principal, mais c'est quelque chose sur lequel on est très attendu. Retrouver du temps, retrouver de l'argent forcément pour faire du bon travail, retrouver du sens aussi, ça c'est quelque chose qui m'est important, parce que parfois je crois qu'on oublie qu'on est au service du public quand on exerce ce métier, de l'intérêt général, et que dans la pratique même qui est la nôtre, la façon de narrer le réel, c'est mettre la plume dans la plaie. Mais c'est aussi parler de ceux et celles qui pensent cette plaie, c'est-à-dire développer un journalisme un peu plus constructif qui nourrisse les gens, qui ne soit pas que dans la dénonciation, mais une fois qu'on a dénoncé, et une fois qu'on a dénoncé, aller plus loin pour ouvrir d'autres perspectives. Et puis aussi une industrie qui doit s'interroger sur son cadre, chose qui a rarement été faite dans le secteur. Aujourd'hui, il y a certains groupes de presse qui commencent à réfléchir à leur politique, à leur raison d'être et à leur politique de RSE. TF1 est peut-être le groupe qui a commencé à le faire en premier. Là, il y a les Échos, les Parisiens qui commencent à beaucoup en parler, mais c'est quelque chose qui a souvent été compliqué dans le milieu. Et après, ben voilà, il y a beaucoup de débats autour des conseils de déontologie, etc. Donc ça, c'est du côté journalistique. À côté de ça, si ces efforts peuvent être suivis, et je pense qu'il y a des choses qui commencent à bouger de manière, et je suis assez contente d'observer certaines évolutions dans certains médias, bah, du côté du public, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et quand je faisais la comparaison avec l'alimentation, j'ai toujours en tête le mouvement Slow Food qui avait été créé en 86 par Carlo Petrini, Voilà, c'était aussi anti-McDo dans un pays où on aime bien la bonne bouffe. Et quand il a lancé Slow Food, ça n'a pas pris tout de suite. Ça a mis 2, 3, 4 ans avant de sortir des frontières italiennes et de proposer un mouvement international qui a permis de remettre du sens dans l'assiette, une alimentation bonne, propre et juste. Et ben, je pense que dans l'information, c'est pareil. Il faut aujourd'hui qu'on se rapproche. Mais du coup, ça veut dire que le public doit travailler sur sa littératie informationnelle, doit comprendre quelle est son hygiène informationnelle, ne doit plus se laisser se faire avoir, en fait, et donc reprendre la main sur son propre rapport à l'information. Donc, je crois que les jeunes aujourd'hui, en fait, sont plus sensibilisés forcément parce qu'ils grandissent dans des avec ces outils. Ils ont une souris dans la main, un écran dans la main dès le plus jeune âge. À l'école, on les sensibilise un peu plus qu'on était à l'époque par rapport justement aux dynamiques de complot, mais ça reste encore petit. Mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, ça a beaucoup avancé dans les écoles. Et il y a plein de profs qui font un beau travail, mais souvent les générations plus âgées sont complètement prises au dépourvu. Et ce qui explique que parfois on reçoit des boucles sur WhatsApp d'articles qui sont mal sourcés, qui datent de longtemps, et ça, en fait, il faut apprendre à avoir des réflexes journalistiques. En fait, les réflexes qui sont les nôtres quand on doit vérifier une information, et ben c'est un savoir-faire que l'on doit aujourd'hui partager amplement pour tout le monde. Et la posture du coup du journaliste, pour moi, c'est aussi plus tard passer du temps à expliquer quel est notre métier, comment il s'exerce, aider les gens à y voir clair et en fait être un peu des vigies. Donc on doit aussi bien travailler sur le fond que sur la forme. Et peut-être que ça va prendre 20-30 ans pour essayer de retisser ce lien de confiance, mais se dire en fait les journalistes ne sont pas tous ceux que je pointe du doigt qui font mal leur travail. Il y a à mon avis beaucoup plus de professionnels sincères qui essayent de bien faire les choses, mais qui sont pris de court par cette industrie qui leur permet pas forcément de travailler correctement. Moi je dépends pas d'une rédaction, je travaille pour plein de rédactions, je suis freelance, j'ai plein de statuts différents du coup. Et quand on doit faire une enquête ou autre, on doit se débrouiller, mais je suis pas celle qui appartient à une rédaction et qui, voilà, on est des petits artisans et je suis facilement accessible et je suis pas celle qu'on peut pointer du doigt comme une éditocrate ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait un dessin avec Natacha Bigan, qui est la graphiste qui m'accompagne sur ce projet depuis le début. On a dessiné une carte du paysage médiatique français. Elle est en ligne, elle est en open source. On doit travailler sur la V2 parce que depuis qu'on l'a sortie, on a eu beaucoup de réactions très enthousiastes, mais aussi des petites choses à améliorer. Et cette carte du paysage médiatique français vise à montrer que c'est pas aussi uniforme que ça. Souvent, on a un peu l'image de la carte d'Acrimed, hein, qui est très intéressante et qui montre quel média est possédé par quel actionnaire en France. Et donc, c'est déjà une information très intéressante que d'avoir conscience de ça, mais moi, je pense que c'est assez connu maintenant. Et là, on a mis tous ces médias-là dans un grand fleuve qui traverse tout notre paysage. Et on a mis des petits yachts pour représenter les actionnaires, on a mis les médias à qui ils appartiennent derrière. Et puis, on montre qu'à côté de tout ça, quand on sort la tête de l'eau, eh ben, on a mis dans une montgolfière des médias qui prennent le temps, qui prennent de la hauteur, qui ont du recul. Donc ça va de 21, qui était un des premiers, à 6 mois en passant par le 1, ou même Arte qu'on a mis dedans, parce que c'est une chaîne qui permet justement de prendre du recul, à un tribunal qui permet de dire il y a des médias qui aujourd'hui sont obligés de faire du fact-checking pour vous aider à y voir clair. C'est pas notre métier de faire ça, mais on le fait parce qu'on nous le demande. Il y a une petite loupe Sherlock Holmes là, qui est un peu celle de l'investigation, pour dire il y a des médias spécialisés dans l'investigation et c'est important qu'ils soient là pour dénoncer les grandes affaires au sommet qu'on a représentées dans des montagnes derrière. On a mis un tas de fumier avec plein de médias qui pour moi valent pas grand chose et que j'ai mis un peu dans ce tas-là. On a ensuite représenté aussi toute la presse jeunesse, tout ce qui est médias sociaux, jeunes youtubeurs, etc. Et enfin, j'ai dessiné une forêt d'alternatives où je mets pour moi cette presse qui essaye d'être un peu plus libre et indépendante. Et au centre de l'image, on a aussi représenté un village qui représente toute la presse et la PQR et la presse et de manière régionale, le local, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en local. Je crois beaucoup en cette presse de proximité, et proximité veut dire proche des gens comme proche du territoire et qui souffre aussi beaucoup en fait aux États-Unis. Qui sont souvent en avance sur nous, il y a des vrais déserts d'informations qui se dessinent. Et du coup, ça a des conséquences politiques parce que les gens ne votent plus en fonction de ce qui se passe à côté de chez eux, mais en fonction de ce qu'ils voient à travers des écrans interposés. Et c'est pour ça que je suis assez inquiète, en fait. Moi, j'étais venue dans cette enquête pour m'intéresser au traitement médiatique des questions d'écologie et j'en suis ressortie avec une vraie vision de l'écologie des médias. Et maintenant, je vois bien les mécanismes qui se mettent en œuvre. Et pour se faire entendre, voilà, entre les influenceurs, les journalistes, les médias, ces bouches médiatiques qui se multiplient, il y a plein de choses à raconter, plein de mécanismes qui se mettent en place. Et il faut vraiment en avoir conscience. En avoir conscience, c'est comme quand on commence à avoir conscience des problématiques écologiques. On ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et bien, sur l'information, c'est pareil. Alors c'est difficile d'intéresser les gens à ça comme ça, mais je pense qu'on y vient. Il y a des documentaires sur Netflix qui sont très bien faits pour aussi sensibiliser. Il y a plein de journalistes qui se mobilisent, mais il faut encore aller plus loin. Et d'où mon idée de dire un jour, il faudrait qu'on soit tous un peu coach informationnel quand on est journaliste, qu'on passe une partie de notre temps à être avec le public pour leur expliquer, pour répondre à leurs questions. Et comme je le fais dans le film, en fait, aller sur les marchés, c'est un premier pas, mais il y en aura sans doute d'autres. Mais c'est quelque chose qui me lâche pas. Et j'ai commencé cette année d'ailleurs à intervenir dans des classes de primaire. Je forme aussi en école de journalisme parce que je prends ce rôle très au sérieux et c'est important de bien sensibiliser tout le monde à tout ça.
Alors coach informationnel, un peu comme les coachs de curiosité qui vous invitent à sortir de votre bulle algorithmique, c'est quoi les premiers exercices que tu conseillerais ?
Dans le bouquin, à la fin, j'ai une petite tentative qui est un régime informationnel. Alors, j'interroge les gens sur leur consommation d'informations, comme on pourrait faire un petit état des lieux en permaculture, en fait. Alors, qu'est-ce que vous lisez ou écoutez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? On essaie de dessiner un peu ça. Je le fais travailler mes étudiants dessus, d'ailleurs. Et ensuite, je leur dis, écoutez, on va faire une petite détox. Vous allez passer 5 jours sans rien. On va commencer par ça. Bien s'informer, c'est commencer par tout couper. Et se rendre compte de comment on va quand on arrête tout ça, quand on arrête ce flux. C'est ce que font les Américains qui ont créé les pires réseaux sociaux au monde. Alors, on commence par ça. Et puis après, on réintroduit, jour après jour, différents types de médias. À commencer par la radio, parce que je pense que c'est le média qui, aujourd'hui, suscite le moins de défiance. Et j'explique que bah, voilà, on peut écouter telle radio, mais il y a aussi plein de podcasts, il y a plein de belles choses qui se font un peu dans des recoins qu'on va pas forcément voir tout de suite. Et puis après, voilà, on peut réintroduire la presse écrite et ensuite la vidéo. Et puis après, il y a plein d'autres choses à aller voir. Mais c'est une façon de dire, vous pouvez reprendre la main et voyez ce que vous ressentez, ce que ça vous fait en termes d'émotion. Est-ce que vous vous sentez nourri intellectuellement parlant? Est-ce que ça vous a bousculé? Est-ce que ça vous a rendu intranquille? Et surtout, est-ce que ça vous a rendu plus intelligent? Est-ce que ça vous donne envie de vous impliquer et de reprendre part dans le débat public et dans la vie de société? Parce que des médias qui ne sont là que pour attiser les haines, les polémiques, les bagarres, comme on a pu voir encore la semaine dernière sur les questions de repas végétariens ou autres, c'est tout le temps comme ça, je pense qu'on en ressort rincé. Et ça mène pas bien loin, en fait. Et aujourd'hui, vu le siècle qui nous attend, on a besoin d'autre chose, de véritablement pouvoir avoir des espaces de débat, de médias médiateurs qui nous aident à agir ensemble de concert et à s'entendre sur la suite.
En termes d'état des lieux, de permaculture, la tienne en l'occurrence, Anne-Sophie, quels sont les médias qui t'inspirent, à laquelle toi tu as confiance ?
Il y en a plein. Alors il y a des médias traditionnels, connus de tous. Je lis quotidiennement Le Monde, La Croix, Libération. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux pour voilà, j'ai des influenceurs ou des journalistes que je suis et ça me permet de m'informer comme ça un peu au fil de l'eau quand j'ai 5 minutes, mais j'y passe pas ma journée. Et j'ai aussi un outil de veille depuis longtemps que je me suis constitué, que j'ai classifié par source d'information et qui me permet voilà, de suivre l'actualité de cette manière-là. Et après, quand je repère quelque chose, je prends le temps d'aller regarder en replay un documentaire, d'écouter pas mal de podcasts aussi. Beaucoup la radio. Je commence ma journée en radio. Voilà, bon, on va dire que c'est des médias de gauche, sans doute. Mais pour moi, ce sont des bonnes sources d'informations qui ne m'empêchent pas d'aller voir ailleurs quand j'ai envie. Mais je fais confiance en ces médias-là. Je suis abonnée en ces médias-là. Je les soutiens financièrement. Je peux me le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est un vrai souci. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais... cette question de voilà, comment soutenir un média aujourd'hui. Et puis, il y a des belles choses qui arrivent en ce moment. Alors bon, il y a ceux pour lesquels je travaille, auxquels je suis très fière de travailler, mais là, je vois de Denis Robert qui vient de lancer Blast. Il est en train de faire une super campagne de crowdfunding. Et ben, je trouve que ça m'a l'air bien, ce qu'ils annoncent. Et s'ils arrivent à voilà, si le challenge est réussi, je pense qu'on peut avoir des petites surprises de ce côté-là, parce que son équipe, ce sont des très bons journalistes. L'intention est... ce qu'ils ont mis dans leur ADN m'a l'air assez intéressant et moi je m'y reconnais totalement. Voilà, je pense que voilà, cette période va nous faire émerger pas mal de choses intéressantes, mais s'ils arrivent à nous faire une web télé aussi engagée qu'ils le disent, voilà. Il n'y en a pas parlé d'engagement, mais pour moi, on peut aussi en parler. L'engagement n'est pas du militantisme, mais c'est aussi à la base du pacte de confiance qu'on doit recréer. S'engager autour de certaines valeurs, tenir ses engagements, engager une conversation, être à l'écoute. Au moins, on sait où on met les pieds. On arrête de dire qu'on est forcément objectif, on a le droit d'être subjectif, on a le droit aussi de faire notre travail en neutralité du mieux qu'on peut, mais on est aussi des êtres humains, nous les journalistes, et on a le droit d'expliquer comment un reportage ou une investigation nous laisse intranquille, comment est-ce qu'on a évolué aussi comme ça. Et je pense qu'en étant transparent dans la façon dont on travaille, transparent quant à nos émotions et à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut penser, c'est aussi c'est une garantie pour le public, en fait, de savoir qui s'adresse à eux, comment ils le font, comment ils font leur travail. Et rentrer dans cette fabrique, en fait, de l'information, pour moi, est crucial aujourd'hui également.
Alors, moi, pour m'informer, j'ai pris un conseil que m'avait donné Joël de René il y a très longtemps, au début de Twitter. Il suivait 72 personnes, parce qu'il avait calculé que c'était le nombre maximum d'attention qu'il pouvait donner aux gens. Et depuis, moi, j'ai toujours fait ça. Je suis des individus, des personnes, des pensées. Quel que soit le support sur lequel ils produisent, je les suivrai. Et donc, par exemple, je suis Cynthia Fleury sur les questions de démocratie et les questions de soins, comme je suis Niels Asiosmanov du Cube sur les questions de rapport humanité-machine, parce que j'ai confiance dans le fait qu'ils ne vont pas rajouter au bruit. Et donc, quand ils vont mettre quelque chose, c'est un cadeau qu'ils font à autrui. Alors, on n'en a pas parlé, c'est bien le moment. Puisqu'on a dit que c'était une économie, on a dit qu'il y avait de la production, de la consommation, de la malbouffe, de la junk information, même trop grasse, trop sucrée, ou alors que sais-je, mal transformée. Eh bien, Fred là encore nous l'a dit, il va peut-être falloir prendre la décision individuelle de payer pour réavoir des médias.
Mais oui, l'information a une valeur et donc elle a un coût. Quand on parlait de l'arrivée d'Internet tout à l'heure dans les années 2000, c'est aussi l'arrivée des gratuits. Ça a été concomitant, cette arrivée-là. Et donc, on a appris à ne plus payer l'information. Et puis, en parallèle, on a eu d'autres sollicitations, les abonnements pour le téléphone, pour Internet, aujourd'hui pour les plateformes de streaming documentaires, musicales. La part du budget qu'on pouvait allouer pour acheter de l'information, vu que tout est disponible à côté gratuitement, pourquoi est-ce que je vais payer ? Forcément, les gens n'estiment que ça n'a plus de valeur. Et c'est pour ça que c'est un acte politique, en fait, d'acheter de la presse, de la partager. Moi, quand on me demande un article, si je suis abonnée, je transforme l'article en PDF et je l'offre volontiers. C'est pas le souci. Mais croire qu'on peut tout partager comme ça, publiquement, et que ça n'a pas de valeur, c'est un souci. Mais en effet, dans le pacte de confiance, il faut que les gens disent « je mets de l'argent ». Et on le voit, il y a des campagnes de crowdfunding maintenant qui commencent à se faire. On lance les médias avec la campagne de crowdfunding. C'est un bon moyen, un, de tester son idée, deux, de voir si elle fonctionne, trois, de constituer une communauté, et ensuite de faciliter l'abonnement. Mais c'est pas facile en fait à faire. Mais il est certain que créer de la bonne information, c'est un gros budget. Mediapart, qui aujourd'hui est le média le plus indépendant de France, avec une communauté de plus de 100 000 abonnés, quand ils se sont lancés, avaient déjà un beau pactole de départ. Blast, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui ils ont déjà dépassé les 600 000 euros. Je sais pas à combien ils en sont aujourd'hui, mais c'est déjà une belle somme pour lancer un média. Alors certes, c'est audiovisuel, mais donc il y a plus de moyens que pour Mediapart au départ. Mais il faut une bonne mise de départ. Et après, il faut en effet faire grossir une communauté d'abonnés qui ont confiance et qui savent qu'ils achètent là une information libre et indépendante. Avec toujours en tête le fait que si on crée un média engagé avec une communauté, il faut quand même rester bien indépendant, nous, en tant que journalistes, pour ne pas servir à la communauté ce qu'elle a envie d'entendre. Et ça, c'est un devoir journalistique d'être assez clair avec ça. Mediapart s'en sort bien, mais après, il reste sur un credo qui est celui de l'investigation. Il y a plein d'autres credos à explorer aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre que l'information coûte quelque chose et que c'est en soutenant les journalistes qu'on fera aussi un peu la nique, j'ai envie de dire, aux actionnaires. Et c'est toute la démarche que porte Julie Acagé avec Un bout du monde, que de dire « redevenons actionnaires, nous, des médias ». C'est toute la démarche qu'elle a lancée en décembre 2020 et que je vous invite à aller regarder parce que, pour le coup, elle essaye de proposer des alternatives dans le modèle économique de la presse actuelle.
Alors cette concomitance justement entre l'industrie des news et les industries du XXe siècle qui veulent pas voir leur fin décrétée, moi m'interroge. et je sens qu'il faut creuser cette problématique.
Le livre à lire en ce moment, c'est Les gardiens de la raison, de Stéphane Foucart, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, le sociologue, qui est dans la suite de leur réflexion sur cette question de fabrique de l'ignorance, où ils montrent à quel point, autour des médias, il y a des stratégies qui se mettent en place. Donc les lobbies qui, autrefois, allaient voir les scientifiques, les payer pour aller prendre la parole dans les médias, n'utilisent moins cette technique, parce que maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne. Par contre, ils vont aller payer des influenceurs. C'est un peu ce que fait le gouvernement en ce moment, d'ailleurs. Ils vont voir les influenceurs. Les influenceurs qui, maintenant, s'adressent à un large public, deviennent les cibles préférées pour faire passer un message. Et donc, dans Les gardiens de la raison, ils expliquent bien cette mécanique. Des think tanks, des lobbies qui créent des éléments de langage, et on va aller voir des influenceurs et faire croire ça. Et donc, c'est tous ceux qui, par exemple, disent « il y a une bonne science et une mauvaise science ». Les écolos, c'est forcément la mauvaise science, ils disent pas les bonnes choses. Et nous, écoutez-nous, nous sommes ceux qui avons la bonne science, et c'est comme ça. Et donc, quand on observe ces mécaniques-là, on ne peut qu'être effrayé, en fait. Parce que le Pékin moyen qui n'est pas au courant, il tombe dans le panneau. Et après, il reproduit ses discours et il est dans ses certitudes et dans ses croyances. Et il est impossible après de débattre de cette manière-là. C'est pour ça que ça pose vraiment problème. Un complotiste, c'est très compliqué de lui dire ce que tu penses, c'est nul. Parce que c'est son ego qui en prend un coup, etc. Et il faut surtout pas, en plus, y aller en frontal. Il faut essayer de dézoomer, de, voilà. Mais ceux qui sont spécialistes de questions de complotisme, il y a plein d'instituts qui le font, il y a des journalistes qui le font aussi, l'expliquent très bien. On peut pas rentrer en frontal avec un complotiste. Il faut vraiment essayer, c'est progressif. Et pour moi, c'est un des mots du siècle. Et il faut vraiment s'en emparer.
Merci Anne-Sophie.
Merci Mathieu.
Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 22 août 2040. Je te retrouve dans ces arbres où ta maison a patiemment poussé, dans cet entre-deux-mer où ta famille a décidé de s'épanouir. Même si depuis les élections de 2021, la Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région en transition du continent européen, tu n'as jamais regretté d'avoir quitté Bordeaux et le masque à purificateur d'air que parfois on doit encore y porter par tant de mauvaises particules. C'est que malgré toutes nos avancées, l'industrie et son déni stratégique est tenace. Tu partageais déjà ces inquiétudes lors de la grande crise de confiance des années 2010-2020. Le Brexit, l'élection de Trump, la contagion des fake news à grande échelle. Et cette expression « fait alternatif » qui consacra le paroxysme du problème auquel tu as voué ta vie, le rétablissement de la confiance entre le public et les journalistes. La pandémie de Covid-19 marqua un tournant. Les gens confinés chez eux se sont retrouvés avec du temps et des écrans pour seule fenêtre sur le monde. Subie ou choisie, cette grande pause a permis de faire l'inventaire de l'essentiel et avec lui, l'importance de bien s'informer. Nombreux sont celles et ceux qui, dans ce moment particulier, se sont réabonnés à des médias, acceptant l'idée de payer pour des informations de qualité. Cela fut un peu comme le slow food, qui avait mis près de 20 ans à émerger avant de se répandre comme une évidence. C'est à cette époque que de jeunes journalistes se sont engagés pour faire bouger les lignes, montrer que l'information incluait tout autant de reporter l'actualité, d'expliquer le monde tel qu'il était, que d'éclairer celui qui arrivait. Les médias classiques s'y sont mis aussi, cherchant à comprendre cet afflux de nouveaux consommateurs et surtout comment répondre à leurs besoins. Et là où très peu s'étaient mobilisés auparavant sur des thématiques comme le climat, nous avons vu apparaître une vraie prise de conscience de leur part, captant leur rôle qu'ils pouvaient jouer sur ces problématiques, mettant leur puissance au service d'un horizon. Je me souviens de ta drôle de brigade, c'était en 2022, non ? La brigade de coach informationnel. À la croisée des coachs en curiosité, qui proposaient des pas de côté pour nous faire sortir de nos bulles algorithmiques dans lesquelles le design des réseaux sociaux nous avait enfermés, des bibliothérapeutes, qui prescrivaient des passages de livres pour soigner nos maux existentiels, et des naturopathes, qui analysaient nos fonctionnements comme nos insomnies et nos degrés de stress. Ces coachs conseillaient des régimes informationnels pour bien se nourrir. Et l'idée prit. Petit à petit, l'organisation se développa, reconnue d'utilité publique par l'État et intégrée de manière plus large dans les écoles de journalisme, elle influença profondément les médias. Devenue un véritable maillon entre ceux-ci et le public, elle mit en place de véritables vigies de terrain, accessibles et implantées dans les territoires. Vers 2026, ces initiatives dans lesquelles tu t'investissais avec conviction ont atteint une dimension internationale. Et dès 2030, le nombre de ces petits producteurs d'information, produisant de l'information en circuit court, tels les petits producteurs locaux en fruits et légumes, était déjà impressionnant. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en 2040, la plupart des journalistes se sont engagés à prendre leurs responsabilités, à considérer leur impact. Nous, prospectivistes, nous passons désormais plus facilement du temps ensemble à échanger sur les sujets d'actualité comme sur les sujets du temps long dans des espaces de médiation sereins et apaisés. Soutenus par des abonnés acteurs et exigeants, les médias ont pleinement pris leur part pour offrir une vision de la réalité la plus juste qui soit. Ils ont préféré la controverse féconde aux polémiques stériles. Ils ont aussi changé la façon d'organiser les débats pour y construire les désaccords, autant que pour y souligner les convergences. Nous sommes en fait passés des médias délivrant de la matière à penser à des médias exhausteurs de réactions, de questionnements, de recherches d'informations autant que d'actions. Cela permet d'avoir aujourd'hui un fonctionnement démocratique en meilleure santé. Le lien humain a été primordial dans toute cette évolution. Accompagner les journalistes acceptant de mieux écouter le public, de ne pas tout savoir, d'éviter la gouroutisation qui en tentait certains, des professionnels sincères, des raconteurs concernés, des chercheurs alertant sur les dégâts de la malinformation. Les mauvaises nouvelles encore, bien sûr, le monde ne s'est pas arrêté d'en produire, mais désormais le même soin à parler des initiatives constructives de toutes celles et ceux qui œuvrent pour changer l'inéluctable. Toi que j'ai connu auteur, journaliste, rédactrice en chef, enseignante, fondatrice de multiples projets et structures, je te retrouve aujourd'hui Impact Editor, plus que jamais congruente et intégrée dans ce tissu local qui t'est cher. Mais je change de sujet. C'est incroyable de voir tous ces arbres fruitiers depuis votre terrasse. Je me souviens très bien quand, après avoir nettoyé le terrain des pièces romaines qui s'y trouvaient, vous en aviez planté un grand nombre pour préserver le vivant, transformer les parcelles de vignes, refaire de la forêt naturelle et redonner vie à la terre. Tu me confiais alors vouloir tout autant cultiver ton potager que ta joie de vivre dans ce monde complexe, mais aussi cultiver cet ingrédient précieux qui nous relie, la confiance. Confiance entre consommateurs d'infos et médias, confiance dans l'aptitude que nous avons tous retrouvée à échanger malgré nos divergences, confiance dans une démocratie ayant retrouvé sa bonne santé et son art de vivre à la bonne heure. Tiens, parlant d'heure et d'épopée, regarde qui vient. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivant entre ses parents le reste de son âge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.